up.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, médias et culture au sens large. Tous les médias et toutes les formes de culture. On va parler des sorties cinéma de la semaine, on est mercredi, mais également des chefs d'orchestre, les femmes à la baguette. Vous retrouverez évidemment Hélène Manarino et son portrait inattendu. Ce sera aux alentours de 10h23. Avant cela, Bertrand Chameroy pour son écran de veille, puis Eva Rock pour son zapping du lendemain. Notre info média, c'est un documentaire qui brise l'omerta sur Michael Schumacher, le champion de Formule 1, star mondial, que plus personne n'a vu en public depuis son accident de ski fin 2013. Nous serons avec l'auteur et producteur Guillaume Janton pour lui demander ce qu'il risque, à commencer par un procès. Et ensuite, il va encore y avoir du sport. Le Tour de France cartonne plus encore qu'en juillet l'an passé. Et les deux plus belles étapes de montagne, c'est aujourd'hui et demain. Nous serons avec le commentateur du Tour, Alexandre Pasteur, et son compère Laurent Luyat, qui présente l'émission Vélo Club juste après l'étape. Et puis enfin, la comédienne Véronique Geneste, ex-Julie Lescaut, pour sa rentrée théâtrale avec la pièce Bêtise Family au Théâtre La Bruyère. Il y aura en prime son portrait inattendu. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decan.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
C'est votre journal des médias, le sommaire du jour.
Les coulisses du départ de Jean-Pierre Pernaut, les réactions à cette annonce et la question de sa succession, mais aussi le procès de Khaled Drahini.
Mais on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision?
Pas de surprise en pole position, France 3 s'est imposé avec La Stagiaire. Le final de la saison 5 a été suivi par 4,8 millions de téléspectateurs, soit 22,5% de part d'audience. C'est le meilleur score de la saison.
La Stagiaire avec Michel Bernier.
Absolument. En deuxième position, on retrouve M6 avec le lancement de sa série française Un homme ordinaire, inspiré de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. En moyenne, les deux premiers épisodes ont été suivis par 2,3 millions de curieux pour 11,2% de part d'audience. C'est un score assez timide. M6 est cependant leader sur les fameuses femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 22%. C'est France 2 qui est troisième avec un nouveau prime dérivé de son programme à succès Affaire conclue. L'émission a été suivie en moyenne par 2 millions de téléspectateurs, soit 10,8% de part d'audience.
Et c'est assez rare pour signaler, pas de TF1 sur le podium.
TF1 est quatrième avec la suite de sa série américaine Big Little Lies. Les deux derniers épisodes de la saison 1 ont fédéré 1,9 million de personnes pour une part d'audience inférieure à 10%. C'est une vraie déception. La semaine prochaine, la série passe en deuxième partie de soirée.
Culture Média.
Et on reste sur TF1, on commence ce journal des médias par les coulisses du départ de Jean-Pierre Pernaut.
J'ai annoncé ce matin en effet à la rédaction de TF1 et à nos correspondants en région ma décision d'arrêter la présentation du journal de 13h, pas tout de suite, à la fin de l'année. C'est un rendez-vous unique qu'on a tous les jours depuis 33 ans, un tiers de siècle de passion quotidienne, de fierté aussi. J'ai donc eu envie de changer de rythme, de transmettre le flambeau du journal à la fin de l'année. Je sais que Thierry Tuilier, le patron de l'information, et Gilles Pélisson, patron de TF1, auront à cœur de maintenir ce journal dans la même logique auprès de vous et dans les régions. On a une équipe formidable aux 13h, nos correspondants régionaux sont extraordinaires. La rédaction à Paris est passionnée, donc ça va continuer. Pour autant, je ne quitte, moi, ni ce métier, ni le groupe TF1, ni le lien qui m'attache tellement à vous. Je continuerai avec SOS Village et l'élection du plus beau marché de France avec Dominique Lagoustre-Père, avec un nouveau grand magazine sur les richesses de notre terroir, un programme digital où je vous retrouverai comme dans une nouvelle émission de LCI. Je vous en dirai plus dans quelques temps. Cette décision d'arrêter a surpris ce matin beaucoup d'entre vous. Ça vous surprend en ce moment. Je l'ai mûrement réfléchi, croyez-moi. On a vécu ensemble une aventure extraordinaire grâce à vous, à votre confiance, celle de vos parents, de vos grands-parents, parfois depuis 33 ans. En fait, c'est un virage que je prendrai en fin d'année, je l'espère avec vous. Et d'ici là, le 13h continue bien sûr. Donc je vous confirme cette information que vous avez entendue ce matin.
Voilà, c'était hier à la fin du 13h de TF1. Jean-Pierre Pernaut confirmait son départ. Il l'avait annoncé quelques heures plus tôt, à 9h. On avait à peine eu le temps de l'évoquer dans le journal des médias hier matin. Il faut avouer qu'on a été surpris et on n'a pas été les seuls.
Personne ne s'y attendait.
Mais très, très peu de gens étaient au courant. Voilà comment ça s'est passé. Ce week-end, Thierry Tuilier, le patron de l'info de TF1, reçoit un coup de fil du Figaro. Le quotidien est au courant du départ prochain de Jean-Pierre Pernaut. Ça fait en réalité plusieurs semaines que la star du 13h a pris sa décision après un long dialogue avec la chaîne. Thierry Tuilier négocie. Il réclame du temps au Figaro pour que Jean-Pierre Pernaut puisse annoncer lui-même la nouvelle aux équipes de TF1. En échange, le quotidien pourra dégainer son article dès l'annonce aux équipes et Jean-Pierre Pernaut leur accordera une interview qui est d'ailleurs parue ce matin. Hier, juste avant 9h, la conférence de rédaction traditionnelle du 13h démarre donc et un appel est lancé pour que tous ceux qui sont à leur poste de travail, qui ne sont pas censés être dans cette conférence, viennent y assister. Jean-Pierre Pernaut prend alors la parole. Il explique que le JT nécessite beaucoup d'énergie, que les derniers mois lui ont fait réévaluer ses priorités, qu'il a pris sa décision pendant le confinement. Il arrêtera le 13h à la fin de l'année. Plus précisément, il le dit ce matin dans le Figaro, le 18 décembre.
Et alors, quelle est la réaction des équipes à cet instant-là ?
Alors, c'est un coup dur pour la rédaction. Même les têtes d'affiche de la chaîne n'avaient pas été prévenues. Pas même Gilles Boulot, à qui on a demandé une réaction hier et qui a adressé un petit message direct à Jean-Pierre Pernaut.
Mon JPP d'amour, on ne va pas se mentir. Tu m'as un peu surpris ce matin en annonçant que tu arrêtais le journal bientôt. Je suis un peu triste, je suis très triste même. En même temps, je sais que tu vas rester dans la grande maison avec 357 projets et demi en tête. Et puis, quelle classe partir au sommet, en pleine bourre, avec encore l'énergie et l'envie, c'est formidable. Bon, je t'embrasse, je te regarde ce midi, comme tous les midis. Je me demande juste si tu ne vas pas nous piquer une petite colère de derrière les fagots à propos des 80 km/h sur les routes. Je m'égare, je t'embrasse.
Surprise totale donc hier vers 9h, certains journalistes pleurent, tout le monde applaudit Jean-Pierre Pernaut pendant près de 2 minutes, puis Thierry Tulier prend la parole. Il reconnaît que les semaines à venir vont être compliquées, il affirme que la recherche d'un successeur doit s'accélérer et il écarte ensuite de lui-même un premier nom, celui de Darius Rochebain. Ce journaliste star en Suisse vient de débarquer dans le groupe TF1 en récupérant le 20h de LCI.
Et le nouveau titulaire, encore inconnu, présenterait un nouveau 13h.
Mais pas du tout, au contraire, face aux journalistes, Thierry Tulier insiste sur le fait que le 13h ne changera pas. La mise en avant des régions, la proximité des Français à qui on veut donner la parole, voilà l'ADN du journal de la mi-journée de TF1. Le remplaçant devra s'adapter au format et pas l'inverse. Et Thierry Tulier promet à la rédaction qu'elle sera informée avant que le nom du remplaçant ne sorte dans la presse. Après l'annonce, il y a un moment de sidération dans toute la tour TF1. Il faut dire que Jean-Pierre Pernaut est aux commandes du 13h depuis 33 ans, ça on le sait. Ce que les gens ne savent pas forcément, c'est qu'il est très proche de la rédaction. Il mange à la cantine tous les jours, c'est un détail, mais c'est un détail assez important. Il connaît tout le monde. Alors certains relativisent tout de même. Les gens sont tristes, mais il n'est pas mort non plus, glisse par exemple un membre de la rédaction.
Et alors ça, c'est les rédactions du côté de TF1. Qu'en pensent les journalistes des autres chaînes, Charles ?
Alors, a priori, à France 2, l'équipe du 13h, qui n'a jamais réussi à rivaliser avec le journal de TF1, n'a pas du tout vécu l'annonce de la même façon, vous vous en doutez. Au-delà de cette anecdote, on est allé interroger certaines têtes d'affiche des JT d'autres chaînes. Et elles étaient aussi surprises que nous, mais toutes élogieuses du travail de Jean-Pierre Pernaut. Louise Bernard a interrogé Karine Guyoc, qui l'affronte tous les midis dans le 12-45 de M6.
C'est la dernière grande star, je pense, de l'info. À l'époque où un présentateur était à la tête d'un JT pendant plusieurs décennies. Ça a été une énorme surprise d'apprendre son départ. Parce qu'il y a, en fait, il y a quelque chose qui relève de l'éternité chez Jean-Pierre Pernaut. C'est-à-dire qu'il est là depuis toujours et on a l'impression qu'il sera là pour toujours.
Anne-Sophie Lapix, qui est aux commandes du 20h de France 2 et ancienne joker des JT de Claire Chazal sur TF1, salue, elle, le style Pernaut.
Un grand pro que je salue, quelqu'un qui a toujours su s'adapter à tout, qui a créé une ligne, un journal, un style, même une expression, faire du Pernaut, c'est devenu une expression chez les journalistes, qui a beaucoup de talent, il est tellement à l'aise qu'il est particulièrement bon dans les grosses actualités, il n'y a pas uniquement les journaux de nos terroirs, il y a aussi les grands moments comme en septembre où il s'est particulièrement illustré et maintenant présenter le 13h de TF1, c'est présenter le journal de Jean-Pierre Pernaut. Donc c'est un exercice vraiment particulier, un genre, un style totalement identifié. Donc la tâche ne sera pas facile pour son successeur.
Et pour Xavier Demoulin, le présentateur du 19-45 sur M6, la succession sera effectivement un sujet compliqué.
Il a une particularité, c'est qu'il a réussi à tisser un lien avec les Français qui est unique. Un personnage comme ça, ça n'existe plus nulle part. Qui peut remplacer Jean-Pierre Pernaut aujourd'hui ? Je pense que ce n'est pas les candidatures qui manquent, mais après, il faut trouver quand même le bon profil pour pouvoir arriver à faire quelque chose qui s'inscrit à la fois dans la continuité et qui soit aussi une rupture de rythme. Il n'est pas remplaçable, il est tellement incarné, ce monsieur. Enfin, moi, j'ai beaucoup de respect pour Jean-Pierre Pernaut. Après, on pense ce qu'on veut de son journal, mais il a vraiment su créer ce lien-là. Et aujourd'hui, on est dans une époque où les gens ont besoin de liens plus que jamais et de repères. Et c'est un sacré repère qui s'en va.
Il y a un seul journaliste qui nous a assuré ne pas avoir été étonné par cette annonce hier. C'est David Pujadas, l'ancienne star du 20h de France 2 et désormais l'un des visages de LCI, la chaîne info du groupe TF1.
Je savais que Jean-Pierre se disait qu'il fallait que ça se termine bientôt, qu'il voulait choisir lui-même le moment de son départ. Donc je n'ai pas été complètement surpris étant donné tout ce qui s'est passé, notamment pendant le confinement. Mais je suis sûr et certain qu'il va manquer. C'est unique en Europe de faire des 40% de parts de marché comme il le fait depuis tellement d'années. C'est quelqu'un, bon, ça c'est évident, qui a senti avant tout le monde l'intérêt des gens pour le patrimoine. Ça explique en grande partie son succès. Son lien avec le public, c'est le seul qui n'avait pas de prompteur. Jean-Pierre Pernaut, il fait son journal sans prompteur. Et quand on dit « regardez la France au fond des yeux », c'est vraiment Jean-Pierre Pernaut. Et puis dernière chose, parce que ça c'est une facette moins connue, mais moi j'ai été reporter pendant des années au début de ma carrière avec lui, et quand il décidait de faire une spéciale, et je ne parle pas de la France profonde, je parle de l'international, c'était carré, c'était anglais, c'était précis. Bref, il avait aussi ce sens de l'info là, et ça, on l'oublie un peu. Donc moi, je tire mon chapeau, affection, admiration depuis longtemps, et donc encore plus aujourd'hui.
En résumé donc pour tous, affection, admiration et interrogation sur la succession de Jean-Pierre Pernaut. Voici les réactions depuis hier. Question, quand saura-t-on qui prendra sa place ?
Alors je vous le disais tout à l'heure, Thierry Tuilier, le patron de l'info de TF1, a dit deux choses à ce sujet à la rédaction. Qu'il faudrait accélérer la recherche du remplaçant et que l'annonce serait faite avant que la presse ne le révèle. À la rédaction, l'annonce serait faite bien sûr. Sauf qu'il se murmure qu'en réalité le choix a été fait. Je vous le disais, tout a été accéléré à cause du Figaro. Mais les dirigeants ne sont pas tombés de leur chaise hier. Les discussions sur la succession de Jean-Pierre Pernaut ont déjà eu lieu. Et Thierry Tuilier a assuré que le nom du nouveau présentateur du 13h serait connu prochainement, car il n'est pas souhaitable de laisser planer le doute de la sorte pendant trop longtemps.
Vous avez dit présentateur, ça pourrait ne pas être une présentatrice ?
Ça, on ne sait pas.
Ça pourrait
être une présentatrice.
On en parlait la semaine dernière, les stars de l'info française s'étaient mobilisées pour afficher leur soutien aux journalistes algérien Khaled Drareni.
Anne-Claire Coudray, Xavier Demoulin, Harry Roselmack, ils s'étaient tous donné rendez-vous lundi 7 septembre devant l'ambassade d'Algérie à Paris, à la veille du procès en appel de Khaled Drareni. Le correspondant de TV5 Monde en Algérie avait couvert pendant plusieurs mois les manifestations du Irak, ce mouvement populaire de contestation du pouvoir algérien. En mars, il avait été arrêté alors qu'il faisait de son travail en pleine manifestation. Il avait été condamné en août dernier à 3 ans de prison pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale.
Et le verdict est tombé.
Il est tombé hier, oui, à l'issue du procès en appel. Khaled Drareni a finalement été condamné à 2 ans de prison, ce qui a provoqué la colère de ses soutiens, de Reporters sans frontières, mais aussi des maires de plusieurs grandes villes de France. Ils ont décidé de s'associer aux appels à la libération du journaliste. Hier, une bannière a été inaugurée devant la mairie de Paris-Centre et une autre marque de soutien sera affichée vendredi à Lyon. Reporters sans frontières a insisté sur sa volonté de faire monter la pression sur les autorités algériennes suite à ce que l'association qualifie de décision, je cite, absurde et arbitraire.
Merci beaucoup Charles Decan, à demain pour un nouveau journal des médias. Notre info média du jour, c'est le documentaire édifiant sur l'accident de Michael Schumacher, 7 fois champion du monde de F1, aujourd'hui paralysé et alité. Guillaume Janton, producteur et réalisateur documentaire qui fait des révélations, sera avec nous.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Comment enquêter sereinement quand vous savez que des dizaines d'avocats vont décortiquer chaque mot et chaque point de votre travail ? Comment faire du neuf alors qu'il s'agit d'une des affaires les plus médiatisées du monde sportif ? Comment parler d'un absent qui n'est pas mort mais ni parfaitement vivant et dont l'entourage refuse de parler et même de fournir toute image ? D'autant plus quand la personne est le pilote le plus titré de l'histoire de la Formule 1, Michael Schumacher. Bonjour Guillaume Janton.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes le producteur et co-auteur avec Thibaut Giton d'un documentaire « Michael Schumacher en quête de vérité » qui passe ce soir sur RMC Story. Alors je raconte les fait. On est le 29 décembre 2013 et celui qu'on surnommait le Baron Rouge est victime d'une chute à ski dans la station de Méribel, c'est en Savoie, en France. Il descend sur une petite zone entre deux pistes. C'est pas vraiment du hors-piste, mais c'est pas damé, il y a des pierres. Il ne voit pas une pierre, il tombe. Et ce que vous dites, c'est que c'est l'attache de la caméra GoPro qui lui perfore le crâne. Extrait.
Sous une légère couche de poudreuse, un caillou a fleuré et ça a accroché son ski, ce qui l'a déséquilibré.
Il tape et vraiment pas buté, c'est ça qui est rageant.
En tombant, sa tête heurte un rocher à peine visible. La caméra, vissée sur son casque, lui perfore le crâne.
C'est la tâche de la GoPro qui a amplifié ses blessures.
Alors, première chose, la personne qui parle est présentée comme spécialiste de la Formule 1. Il s'appelle Ziv Knoll. Moi, je connais assez bien la F1, je ne l'avais jamais vu. Qui est ce gars ?
Eh ben, je vais vous acheter un abonnement à F1 Magazine. Ouais. Il est journaliste à F1 Magazine. Ziv Knoll, c'est un journaliste suisse.
D'accord. Voilà. Schumacher est transporté en hélicoptère à l'hôpital. Et ce qui frappe, c'est que dès le début, tout son entourage et sa famille font tout pour qu'aucune information ne filtre. L'omerta est complète. Pour quelle raison ? Pourquoi tant de mystère ? Je veux dire le sens de ma question. C'est pas comme si on avait triché aux impôts ou tué quelqu'un. Tout le monde a le droit d'avoir un accident de ski. Mmh. Il y en a des centaines de milliers chaque année. Où est le problème ?
Mais je pense que face à la gravité de l'accident, ils ne savaient pas ce qui s'était passé. C'est quand même quelque chose chose de totalement imprévisible, d'irrationnel. Donc le jour de l'accident à Méribel, il y a eu une véritable cohue, il y a eu des fans, des journalistes qui étaient là, qui voulaient savoir ce qui s'était
normal.
Passé. Et la première à parler, ça a été Sabine Kem, qui est l'attachée de presse de Michael Schumacher. Et c'est vrai qu'il y a une véritable omerta qui s'est installée, puisque les médecins n'étaient pas clairs, Sabine Kem n'était pas claire non plus, donc on ne savait pas ce qui se passait.
On l'entend parler, et c'est le championnat du monde de langue de bois quand elle parle.
Ouais, exactement.
On ne sait pas du tout ce qu'il y a eu. Vous avez enquêté au sein de la rédaction du journal suisse L'Illustré, et je vous cite, vous dites, pour les journalistes, il est dangereux de parler publiquement de l'état de santé de Michael Schumacher. Qu'entendez-vous par dangereux ?
On dit qu'il y a eu des représailles de la famille, des menaces. Dès qu'il y a une information qui fuite sur l'état de santé de Michael Schumacher, qu'elle soit positive ou négative, c'est très compliqué avec la famille. On sait que la communication est vraiment maîtrisée, non seulement par Sabine Kem, qui est donc cette attachée de presse officielle de Michael Schumacher, mais aussi de la famille Schumacher avant et après l'accident. Et derrière tout ça, il y a Corinna Schumacher qui tient la communication d'une main de fer. Et c'est très, très, très difficile d'avoir des informations et encore plus difficile de donner des informations, effectivement, par peur de représailles.
Corinna, c'est l'épouse du pilote. En 2017, le magazine allemand Bund a dû payer 50 000 euros de dédommagement à la famille parce qu'ils avaient déclaré que Michael Schumacher pouvait marcher à nouveau, ce qui était faux, mais c'est pour ça qu'ils ont eu ce procès, pour une information fausse ou parce que c'était une information qui touchait la vie privée.
Bah nous on donne des informations aussi dans ce documentaire. Après,
non mais ce qui a posé problème, c'est que c'était faux ou que c'était juste personnel et qu'on n'avait pas le droit de le publier.
Ah non, c'est que c'était. Je pense que toute information, encore une fois, qu'elle soit vraie, fausse, positive, négative, pose problème. Donc il y a la famille a un problème avec ça apparemment.
Un témoignage, c'est un journaliste suisse. Il s'appelle Arnaud Béda. Il est grand reporter.
Oui, effectivement, ce dossier médical volé par un employé de la Rega qui s'est suicidé ensuite en prison et qui avait réussi à subtiliser le dossier médical et qui a essayé visiblement de le monnayer. Il y a l'autre histoire de ces photos qui ont été prises à gland par un employé indélicat qu'on aurait tenté de négocier pour 1 million d'euros ou de livres sterling. C'est complètement fou de se dire que quand un journal reçoit des photos de Michael Schumacher aujourd'hui, la première chose que fait le journal, c'est d'appeler les avocats ou la famille de Michael Schumacher pour leur dire « Dis donc, on m'a proposé pour 1 million, ça défie toutes les lois de la presse ».
Alors, on est mal barré.
Gland, je précise, c'est une ville de Suisse, c'est le lieu d'habitation réel ou supposé de Michael Schumacher, on en parlera dans la deuxième partie. Mais quand même, cette histoire, un employé justement qui bossait pour Schumacher là-bas en Suisse, qui avait subtilisé son dossier médical, s'est ensuite suicidé en prison. Ce suicide aurait été causé par dépression ?
Apparemment, après, c'est des démarches qui sont vraiment commerciales. C'est-à-dire qu'on parle de personnes qui étaient dans l'intimité de Michael Schumacher, qui avaient accès à des informations privées et qui les ont vendues directement à des médias. Nous, on a juste voulu raconter une histoire, relater des faits. On a donné la parole à des gens qui sont des spécialistes de F1, mais aussi des personnes qui ont côtoyé Michael Schumacher, comme Philippe Streff, par exemple, qui était un des premiers à le voir à Méribel. Donc, on ne donne pas la parole à n'importe qui et on n'a pas subtilisé des pièces et des choses privées.
Non, non, mais je demandais ça pas pour vous. Hein. Vous me répondez sur la défensive, vous aviez peur d'avoir des représailles du clan Schumacher.
Oui et non, parce qu'on sait qu'ils attaquent pour un rien. Après, nous, on n'a rien à se reprocher. On relate des faits, on donne la parole à des gens, c'est tout.
Les proches, Philippe Stray, vous en parliez également des médecins. C'est juste après ça, vous restez avec nous. Guillaume Janton, Michael Schumacher en quête de vérité. C'est ce soir sur RMC. J'oublie si c'était la 23 ou la 24.
C'est la 23.
Et c'est maintenant dans Culture Média, tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Guillaume Janton, co-auteur avec Thibaut Giton d'un documentaire, s'appelle Michael Schumacher en quête de vérité. Il est question de l'accident de ski de Michael Schumacher, qu'il a vu se soustraire aux caméras. Il est maintenant entre les mains des médecins. On ne sait pas entre les mains de qui il est. Plus de nouvelles. Mais là, dans ce documentaire, pour la première fois à ma connaissance, vous brisez l'omerta. Avant qu'on parle des conséquences judiciaires que vous pouvez craindre, voici ce qui est dit. On va entendre un médecin et un proche, et Philippe Streff.
L'état de santé de Schumacher, un secret de polichinelle que tout le monde refuse d'aborder en public. Mais lors de cette enquête, les témoins, proches de Schumacher, sont en mesure de nous faire enfin des révélations exclusives sur la santé du pilote.
Là, il est dans un état végétatif, il ne parle pas, il ne reconnaît personne.
L'ancien pilote Philippe Streff, qui a lui aussi subi un grave accident, a accepté de nous dire sa vérité sur l'état de santé de son ami.
Michael Schumacher doit être dans son lit, dans un état déplorable. Il a perdu beaucoup, beaucoup de kilos. Moi, pour la famille, je ne vois pas l'intérêt de garder un mari ou un père handicapé comme ça. Quand je vois que pour beaucoup moins que ça, il y en a qui partent en Suisse ou en Belgique, où c'est autorisé de se faire suicider, enfin, euthanasie.
Je ne veux pas être pessimiste, mais je pense qu'il n'y a rien à faire. On imagine que sa vie va se terminer un jour prochain parce que son corps sera trop faible.
L'ancien pilote Philippe Streiff lui-même sur un fauteuil roulant qui recommande l'euthanasie, ce sont des propos très durs.
Très durs, d'autant plus que Philippe Streiff était un proche de Michael Schumacher. Ça a été un des premiers à se rendre à Méribel après l'accident. On a les images dans le documentaire. La presse lui demandait alors qu'est-ce que vous pensez de son état. Il dit qu'il va parler avec sa femme Corinna, etc. Donc on ne donne pas la parole encore une fois à n'importe qui. C'est quelqu'un qui avait des vrais liens avec Michael Schumacher. Effectivement, ce qu'il dit est très dur. Il y a un autre passage dans le documentaire où, parce qu'on a aussi fait appel à des médecins pour analyser la situation d'un point de vue médical. Et Gérald Kierzek nous dit que Michael Schumacher serait dans un état comparable à celui de Vincent Lambert.
Au-delà de l'information, on est ici une émission média. Quelles conséquences judiciaires craignez-vous avec la diffusion de ce reportage qui va être scruté du côté Schumacher ?
Une lettre ?
Non, mais une lettre, ça veut dire une lettre commandée, oui, ça veut dire une attaque en justice.
Non, mais alors, nous, encore une fois, on n'a rien à se reprocher. On craint parce qu'on sait que la famille attaque. Voilà, mais... Nous, on a fait notre travail, on emploie le conditionnel quand il faut employer le conditionnel. On donne la parole à des gens qui ont côtoyé Michael Schumacher, qui le connaissent bien, son biographe, des journalistes spécialisés, des médecins. C'est pas n'importe qui, il y a des fans également, puisqu'il faut savoir que Michael Schumacher a une énorme communauté de fans qui sont vraiment à fond dans Michael Schumacher et qui ont envie de savoir aussi.
Ce qui est vraiment passionnant, c'est la question que vous posez et à laquelle vous répondez. Pour quelle raison la famille cache la vérité sur l'état réel de Michael Schumacher ?
Alors, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que je pense que, Philippe Streiff le disait, il a perdu énormément de poids. Il a perdu plus de 40 kilos, donc ça doit être très difficile de voir une image déjà de Michael Schumacher aujourd'hui. Donc déjà, pour des raisons presque esthétiques et puis pour des raisons de communication, c'est très très dur de voir Michael Schumacher aujourd'hui dans cet état pour sa carrière, mais aussi pour ses sponsors. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'énormes enjeux financiers derrière cette affaire. Michael Schumacher, aujourd'hui, c'est une fortune estimée à 1 milliard d'euros.
Voilà. Et expliquer ce qui se passe, c'est que les sponsors qui donnent toujours de l'argent, des contrats qui n'ont pas été dénoncés, qui continuent à courir, si on le voit dans un état très 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 affaibli, il pourrait...
Forcément, ça affaiblit l'image de Schumacher. Il y a d'énormes contrats qui sont signés avec des sponsors. Il y a aussi une histoire avec l'industrie du tabac, qui est un des sponsors historiques de la Formule 1. Alors ça a changé maintenant parce qu'on ne peut plus vraiment faire la promotion des marques de tabac. Mmh. Mais il faut savoir que Michael Schumacher et Jean Todt ont créé, alors ironie du sort, avant son accident, l'ICM, qui est un institut, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, alors que Michael Schumacher a été touché au cerveau, ironie du sort. Et il y a des histoires de financement avec l'industrie du tabac. On a décrypté ça dans le documentaire et c'est vrai que c'est les coulisses de cette affaire et ça explique pourquoi la famille ne veut pas parler.
Et il y a une histoire dans l'histoire, c'est que vous avez retrouvé sa villa, mais il n'habite plus en Suisse, mais en Espagne, à Majorque.
C'est vrai qu'une des questions, c'est où est Michael Schumacher, puisqu'on ne le voit pas. Alors on pensait qu'il était en Suisse à Gland, dans sa villa qui est absolument immense, et on s'est rendu compte en allant là-bas qu'il n'était pas là. Il n'y avait personne, il n'y avait pas d'activité, on a filmé la villa avec un drone, etc. Et donc on s'est demandé où est Michael Schumacher.
Et vous l'avez retrouvé.
Et on l'a retrouvé.
Et de raconter.
Ah on la retrouve. Regardez le documentaire. Non, on est allé en Espagne, à Palma de Mallorca. En fait, Michael Schumacher a plusieurs propriétés et il serait dans cette villa de Palma de Mallorca à Andratx.
Mais ce qui est absolument passionnant, c'est ce que vous expliquez, c'est qu'il a fait un deal avec les autorités suisses pour les impôts. Il a un forfait. Mais pour avoir droit à ce forfait, il faut habiter 6 mois plus un jour en Suisse.
Exactement.
Or, vous dites qu'il n'y habite plus 6 mois plus un jour en Suisse, qu'il est en Espagne.
Ce qui explique encore une fois le silence de la famille sur le lieu de résidence de Michael Schumacher. Est-ce qu'il habite en Suisse, est-ce qu'il habite en Espagne ? C'est pas bien clair. Et c'est effectivement, a priori, pour des histoires de fiscalité qu'il ne communique pas, que la famille ne communique pas là-dessus.
Il y a une immense zone d'ombre qui reste et que vous ne levez pas. Selon les tout premiers témoignages, il n'avait pas de caméra pendant son accident de ski. Ensuite, pas de GoPro. Et puis ensuite, le journal Bild, journal allemand, révèle que la cause de l'accident se trouve dans les fixations qui ne s'est pas ouvertes. On est en janvier, puis on apprend l'existence d'une GoPro, puis en février 2014, Die Welt, des quotidiens allemands, révèle que la caméra qui a été trouvée était intacte, donc elle n'a pas aggravé le choc. L'impact aurait touché le casque du côté droit alors que la caméra était installée au centre du casque. On ne comprend rien. S'il y a une GoPro, pourquoi personne n'a vu les images ? Qui a vu les images de cette GoPro et pourquoi vous n'en parlez pas dans le doc ?
On n'en parle pas parce qu'on ne sait pas et quand on ne sait pas, on ne parle pas. Après, la GoPro a priori était mal vissée sur sa tête. Alors est-ce que la GoPro, on peut avoir une GoPro sur la tête et elle peut ne pas filmer ? Donc ça reste une zone un peu obscure. Ce qu'on sait, c'est qu'a priori, la GoPro lui a perforé le crâne et qu'elle était mal vissée. Maintenant, GoPro a été mis en cause dans l'affaire, mais ils ne sont pas du tout responsables parce qu'on peut mal visser une caméra sur son casque. Mais voilà, ce dont on est sûr, c'est qu'il a heurté un rocher avec son casque et qu'il y avait une GoPro sur son casque.
Et la GoPro, l'action GoPro a chuté ensuite après ces révélations. Merci beaucoup Guillaume Janton, co-auteur du documentaire Michael Schumacher en quête de vérité. C'est ce soir sur RMC Story à 21h05, c'est le canal 23. Culture Média continue, restez avec nous, on va parler cyclisme, on reste dans le sport avec le commentateur du Tour de France Alexandre Pasteur et Laurent Luyat qui lui présente l'émission juste après Vélo Club. Ça sera juste après ça, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Laurent Luyat.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous reposez votre portable, vous présentez Vélo Club, c'est tous les jours sur France 2, juste après l'étape du Tour en direct.
Oui.
Donc juste après avoir entendu Alexandre Pasteur commenter. Bonjour Alexandre Pasteur.
Bonjour Philippe.
Vous êtes le chef d'orchestre. Ah, j'adore entendre cette voix, c'est la voix que j'entends quand je regarde le Tour, ça me fait tout bizarre. Ouais.
Bon, déjà vous regardez le Tour, c'est bien.
Voilà, vous êtes le chef d'orchestre de toute l'équipe de commentateurs en direct. Le final, ce sera dimanche 20 septembre sur les Champs-Élysées. Mais d'abord un mot sur les étapes d'aujourd'hui et de demain. Ce sont les deux plus belle du Tour. D'abord, aujourd'hui, quel programme? Vous prenez l'antenne à quelle heure?
On prend l'antenne à 11h55 et le départ de l'étape à midi.
D'accord. Alors le programme, c'est quoi? Le parcours?
Alors le parcours, ça part de Grenoble, ma ville natale, ouais. Plus de ça, donc ouais. Pour aller jusqu'à Méribel, col de la Lauze, qui est inédit en fait. Hein. C'est un col que les coureurs vont découvrir et qui va les torturer.
Mais il ne faut pas d'autres. Qu'un col. Si
non,
c'est
il y a le col de la Madeleine, par exemple.
C'est ça, faites-nous rêver, racontez-nous le programme.
Alors Alex...
Col de la Madeleine, col hors catégorie, et on enchaîne avec donc cette montée inédite au col de la Lauze, à Méribel. Jamais le Tour de France n'y est allé, et surtout aujourd'hui on arrive à 2304 mètres d'altitude, donc c'est le point culminant du Tour aujourd'hui.
Voilà, et si les gars ne sont pas assez fatigués, il y a l'étape de demain.
Demain, entre Méribel et La Roche-sur-Foron, là il y aura 4600 mètres de dénivellation, c'est voilà, l'étape qui en propose le plus, et ça va être très très dur aussi. Alors demain ça arrive en descente à La Roche-sur-Foron,
d'accord.
Mais ça sera très beau aussi.
Alors les audiences ne sont absolument pas en descente, c'est encore mieux que le Tour en juillet, parce qu'on se demandait comment ça allait marcher le Tour en septembre. Vous avez les chiffres en tête, Laurent Luyat, ou pas? Vous les connaissez? Moi, je les ai.
Bah déjà, il y a plus de 35 millions de téléspectateurs qui nous ont regardés depuis le début.
Ouais. Juste sur la première semaine, pardon de vous interrompre, c'est 30,2 millions qui ont suivi, c'est 8 millions de plus qu'en juillet 2019, ce qui paraît complètement dingue.
C'est vrai.
Et c'est meilleure première semaine du Tour depuis 2013.
Exactement, mais ça c'est la force du Tour de France, c'est incroyable. Le Tour de France résiste à tout, même au virus, et les gens avaient envie en fait de voir la course, de voir les paysages, de sortir du Covid, de sortir des masses, de tout cela.
Alors moi ce qui m'a le plus amusé, je ne sais pas si vous avez vu ce chiffre, vous savez ce qu'on appelle les actifs, c'est les gens qui travaillent. Et le Tour de France a attiré 54% des actifs, c'est 19 points de plus qu'en juillet. Autrement dit, les actifs en septembre ne sont pas très actifs, puisqu'ils sont devant leur télé au lieu de travailler.
Bah, tant mieux pour nous, c'est chouette. Hein.
Ah oui, ils font les
deux. Ils font quoi les gens au lieu de travailler?
Bah, ils ont un œil sur le Tour de France. Hein.
Vélo Club, ça marche comment?
Ah, ça
marche. Parce que vous, vous présentez Vélo Club.
Voilà, Vélo Club, eh bah, c'est un carton. C'est vrai qu'on fait encore plus que l'année dernière, qui est déjà une année exceptionnelle avec Julien Lafilippe, qui était 14 jours en jaune. Mais on fait en moyenne 2 millions de téléspectateurs. On monte jusqu'à 2 millions 3, 2 millions 4. À 18h sur France 2, on est archi leader face à la concurrence. Parce qu'au mois de juillet, on a moins de concurrence, forcément. Oui. Tout le monde est en vacances,
mais moins de téléspectateurs.
Voilà. Tandis que là, 2 millions, on est vraiment ravis. Merci. Hein.
Vous avez fait des études marketing. Est-ce que vous savez qui est votre public? Est-ce que ça a ramené des gens qui ne regardaient plus la télévision linéaire, exactement comme la crise du coronavirus a ramené plein de gens, par exemple, devant Koh-Lanta, des jeunes qui ne regardaient plus la télé?
Bah, c'est-à-dire que ce sont toujours les sportifs, les champions qui sont les vitrines de leur sport. Et un coureur comme Julien Alaphilippe fait rêver des jeunes. Voilà, les incite à se mettre au vélo parce que c'est une star, c'est une idole. Et c'est vrai qu'on a un public qui est de plus en plus jeune, en fait, même si les anciens sont toujours là, hein, évidemment. Ouais, heureusement.
Un mot du coronavirus, vous avez peur que certaines équipes, donc certains coureurs, soient contraints à l'abandon?
Non, ça c'est fini. Les deux jours de repos sont passés. Tous les tests réalisés lundi lors du deuxième jour de repos sont négatifs, donc non, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et comme les tests se font sur une période de 7 jours glissants, donc là, tous ceux qui sont partis hier, eh bien, iront jusqu'à Paris dimanche.
Ironie de l'histoire, il y a des mesures draconiennes sur ce Tour, et celui qui a été touché et qui a dû quitter l'épreuve, c'était le patron, le directeur du Tour, Christian Prudhomme.
Oui, mais ça n'a pas impacté la course du tout, il a été remplacé par François Lemarchand, il n'y a aucun souci à ce niveau-là.
C'est celui qui rencontre le plus de gens, hein, des élus.
Oui, c'est le plus exposé, donc voilà, c'est pas finalement si surprenant que ça.
Et autre ironie de l'histoire, il y avait une polémique des féministes l'an passé à cause des autres qui venait embrasser le vainqueur de l'étape et le maillot jaune, c'était jugé sexiste. Ben là, tout le monde va être content. Cette année, il y a un hôte et une hôtesse, sauf qu'à cause de la pandémie, ils sont à 3 mètres des vainqueurs, donc plus personne n'embrasse plus personne.
Oui.
Donc, dans la série, tout ça pour ça. Question à propos de polémique, que pensez-vous de ces maires de grandes villes, je pense à Lyon, je pense à Rennes, qui jugent le Tour sexiste et surtout polluant? Que leur répondez-vous?
Pense
au maire de Lyon, par exemple.
J'ai vu beaucoup de monde lors de l'arrivée à Lyon, samedi. C'était la fête, c'était le Tour de France, le Tour de France tel qu'on le connaît.
Oui, voilà, la fête est polluée. Que répondez-vous à l'argument de la pollution?
La pollution, non. ASO fait beaucoup d'efforts. Je trouve que nous-mêmes, on fait beaucoup de prévention à l'antenne avec Laurent Jalabert, pour inciter les coureurs à ne pas jeter leurs déchets partout. Je trouve qu'il y a eu des gros progrès qui ont été faits. Évidemment, ça reste perfectible, mais je trouve que le Tour de France va dans le bon sens.
Mais les maires écolos devraient dire dire il faut faire des efforts pour aux organisateurs pour limiter tout ce qui pollue, mais ne pas dire je ne veux plus du Tour de France. Il faut arrêter d'enlever ce qui fait rêver les gens, le bonheur, les sapins de Noël, le Tour de France. Maintenant, on va s'attaquer aux Jeux Olympiques de 2024. Enfin, je veux dire, à un moment donné, déjà que la vie des gens n'est pas toujours très simple, si on leur enlève ces plaisirs-là, des fêtes populaires, c'est pas normal.
Je vais parler de sport. Armstrong n'est plus là. La grande équipe qui gagnait tout, Ineos, ils sont à la ramasse. On attendait une victoire française patatras, ou patatras au sens propre du terme. Thibaut Pinot est tombé, il s'accroche mais il galère. Romain Bardet est tombé, il a abandonné.
Vous savez que Bernal ne prendra pas le départ ce matin.
Ah bah donc vous me l'apprenez.
Du titre,
voilà, le numéro 1 ne prendra pas le départ. Alaphilippe a perdu son maillot jaune à cause d'une bêtise, il galère. Comment vous expliquez tout ça? Est-ce que c'est la faute à pas de chance? Est-ce que ça se ressent sur les audiences?
Non, pas du tout, pas du tout. Simplement, les acteurs, enfin les héros de 2020 ne sont pas ceux de 2019. Donc voilà, il y a un renouvellement qui se fait naturellement. Et ça n'empêche que voilà, on a une course. Là, on est à 5 jours de l'arrivée du Tour. Je suis incapable de vous dire qui va gagner, qui va terminer 3e, qui va être meilleur grimpeur, qui va être maillot vert. Donc il y a du suspense. Sportivement, c'est un Tour qui est top.
Je prends 30 secondes pour parler de l'affaire Alaphilippe, ou plutôt l'affaire Marion Rousse, à cause d'un dessin paru dans l'Humanité qui l'a montré. Elle travaillait avec vous en petite tenue au lit avec Alaphilippe, qui dans la vie est son compagnon. Compagnon, comment vous l'avez vécu de l'intérieur?
Je sais qu'elle, elle l'a mal vécu le jour où c'est paru. C'est un dessin scandaleux et qui n'est pas drôle surtout. Voilà.
Non, mais après Marion, elle a un socle très très solide. Donc effectivement, elle a mal vécu sur le moment, mais elle est vite passée à autre chose.
Oui.
Et puis, non, ça n'a pas impacté son travail du tout.
Nous aussi, on va vite passer à autre chose. On a encore plein de questions pour vous. Vous restez avec nous. Laurent Luyat avec nous, qui présente Vélo Club, juste après l'étape commentée par Alexandre Pasteur. Ils sont avec nous dans Culture Média. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Alexandre Pasteur, présentateur, commentateur du Tour de France. La plus belle étape du Tour, c'est cet après-midi. À la fin de l'étape, il y a Vélo Club. Le présentateur, c'est Laurent Luyat. Il est avec nous dans ce studio. Je me tourne vers vous, Alexandre Pasteur. Est-ce que vous êtes toujours aussi déçu de commenter depuis Paris?
Ça m'a beaucoup déçu, oui, quand j'ai su que j'allais commenter le Tour de France à Paris. Donc j'ai fait un petit peu la gueule avant, c'est clair. Mais voilà, je suis vite passé à autre chose. Et ça reste un honneur et un bonheur de commenter le Tour de France.
Mais donc, ça change quoi, puisque dans les deux cas, vous êtes dans une cabine. Je comprends très bien si on est sur la moto.
Ça dégrade un peu mon travail, dans la mesure où je n'ai pas le côté charnel du Tour. Je ne peux pas respirer le Tour de France, je ne peux pas voir les routes, le public, etc. Donc ça manque. Et puis on a aussi un décalage audio avec les motosons de 3-4 secondes, voilà, qui est un peu pénalisant. On perd le côté un peu intuitif des motosons, mais sinon, pour le reste, ça change pas grand chose. Et je suis vite passé à autre chose. Et voilà, on s'est adapté à ce dispositif et tout roule.
Gros dispositif, qui est à Paris, qui est sur place?
Alors,
il y en a des noms.
À Paris, toute l'équipe des commentateurs. Donc voilà, il y a Franck Ferrand évidemment, qui s'occupe de la partie patrimoniale du commentaire du Tour. Laurent Jalabert et Mario Rousse, les deux consultants. Là, on met à Paris tous les quatre ensemble dans notre studio et on commente le Tour, donc au 5e étage à France Télévisions.
Et Johan Ofredo, qu'on voit aussi chez Vélo.
Johan Ofredo, Vélo Club.
Qui courra encore le Tour, qui était avant-dernier du Tour l'an dernier.
Oui, exactement.
Et sur place, il y a Nicolas Jay, Rodolphe Godin.
Exactement.
Et Thomas Vauclair.
Thomas Vauclair et toutes les personnes évidemment qui sont indispensables à la production du signal international, parce que France Télé diffuse mais surtout produit le signal international pour 190 pays.
Bonne ambiance dans l'équipe?
Super bonne ambiance.
Je vous demande ça parce que l'autre jour Bertrand Chameroy avait relevé cette passe d'armes en direct entre vous, Alexandre Pasteur, et Thomas Vauclair sur la moto.
Est-ce plus facile de rouler tranquillement ou de rouler à bloc?
Ah, ça c'est une question, ça c'est une question con hein.
Bon, tout le monde rigole. Vous avez une explication ensuite, les deux?
Alors, en fait, on fait... Le Tour de France, c'est 110 heures d'antenne.
Ouais.
130 si je rajoute Vélo Club, parce que Laurent a la gentillesse de m'inviter tous les jours dans Vélo Club. 130 heures d'antenne. Et vous retenez les 10 secondes de crispation. Bon, après, c'est votre
boulot de faire
du buzz. Mais
on
si, mais si
les
vous les retenez, la preuve, vous les repassez.
Parce que ça fait rire tout le monde.
Non, mais, oui, moi aussi,
ça fait même rire votre équipe.
Mais moi aussi,
je voulais savoir, est-ce qu'il y avait une explication
rire.
Après
mais pas du tout. Il n'y a pas besoin de s'expliquer. Enfin, je veux dire, on est passé à autre chose très rapidement. 10 secondes de crispation. Voilà, je me suis un peu raidi sur mon siège. Et puis, ça n'a pas duré plus de 10 secondes. Alors, je sais pas, vous me dites que vous regardez le Tour, voilà, vous voyez bien que l'ambiance elle est bonne et que Thomas il a gardé son côté badin, déconneur sur la moto et tout se passe très très bien.
Mais aujourd'hui, dès qu'on est spontané, qu'il y a de l'humeur,
exactement.
Etc., ça surprend tout le monde.
Ouais.
Mais c'est vrai, faut arrêter d'être aseptisé.
Donc tout va très bien et on se marre bien, et c'est l'essentiel.
Et ici aussi, comment vous avez vécu cette année de confinement, notamment le report du Tour, le report des Jeux Olympiques?
Moi, au mois d'avril, j'étais pas bien parce que je voyais toute mon année qui partait à la poubelle en fait. Hein, les JO, les championnats d'Europe d'athlée, le Tour. Bon, on s'est longtemps dit qu'il n'aurait pas lieu. Finalement, il a lieu. Je crois que c'est ça qui nous fait vraiment beaucoup de bien. Donc moi, j'ai mal vécu dans un premier temps. Et puis après, voilà, je me suis dit qu'il y avait bien plus malheureux que nous. Et que voilà.
Votre prochain projet?
Du vélo, c'est du vélo, championnat du monde, juste après, une semaine après l'arrivée du Tour, championnat du monde de cyclisme à Imola en Italie, et tout le mois d'octobre, les classiques qui auraient dû avoir lieu au mois d'avril et qui auront lieu au mois d'octobre, c'est-à-dire Tour des Flandres, Liège-Bastogne, Liège-Paris-Roubaix, etc.
Il a du boulot, hein.
Non, ça va, j'ai de quoi m'occuper.
Laurent, même question, qu'est-ce que le confinement sportivement vous a fait rater?
Alors après, moi, les Jeux Olympiques, c'est vrai que je l'ai mal vécu parce que c'est l'événement le plus extraordinaire qu'il existe sur la planète, mais bon, maintenant, on a la garantie qu'ils auront lieu l'année prochaine à Tokyo.
C'est sûr.
Le président du CIO l'a confirmé.
Au même date.
Quoi qu'il arrive, au même date.
Avec un an de retard.
Avec un an de retard. Et puis bon, on a quand même la chance de vivre le Tour de France et donc Roland Garros qui démarre dans 10 jours, hein, dans la foulée. C'est un marathon et c'est formidable.
Mais attendez, donc il y aura, c'est comme Koh-Lanta, il y aura deux Roland Garros cette saison.
C'est-à-dire
Eh bien, parce qu'il y a Roland Garros à l'automne, il y en aura en mois de mai. Il n'y en a pas deux dans l'année, mais il y en a deux dans la saison.
Deux dans la saison, vous avez raison, exactement. Hein, et ça va faire drôle, parce que Roland Garros, au mois d'octobre, en plus, alors, il y aura le toit, donc ça sera éclairé, enfin voilà, ça va être une autre ambiance. J'aurai la terrasse avec les consultants, Amélie Mauresmo, Justine Hénin, Marie Pierce, Sébastien Grosjean qui nous rejoint, Mika Lyodra, enfin voilà, il y a toute l'équipe en place.
Juste un mot, vous aurez la terrasse dès cet automne ou à partir du mois de mai?
Non, je l'aurai dès
cette année. Non, pardon, la terrasse, le toit, excusez-moi.
Le toit, il sera opérationnel dès cette année. Voilà, exactement.
Donc, plus de matchs interrompus, plus de grands matchs interrompus par la pluie.
Vous ne me verrez plus pendant deux heures à meubler en attendant que la pluie cesse. Voilà.
Je me tourne vers vous, Alexandre Pasteur. C'est vrai qu'en 2008, vous aviez dit non à Canal+, qui voulait vous mettre sur le foot.
Oui, absolument. C'était pour commenter le foot espagnol. Et j'ai un profond désamour du foot. Donc, voilà, le foot, j'ai adoré ça. Mais vraiment, quand j'avais 15, 20, jusqu'à 30 ans. Et maintenant, je le consomme plus du tout. Surtout à huis clos, encore moins.
C'est
encore vrai. Moins.
C'est quoi vos sports de prédilection? Qu'est-ce que vous regardez quand vous êtes chez vous?
Je consomme sport d'hiver, évidemment. Ça, c'est dans mon ADN, c'est ma culture. Donc, le ski alpin, ski nordique, etc. Ça, j'adore. Le vélo, évidemment. Toutes les courses que je ne commande pas, je les regarde. Et puis, l'athlétisme, que j'ai commenté pendant 20 ans sur Eurosport et que je continue de suivre avec passion.
Comment ça se passe aux fins d'émission, tous les deux?
C'est-à-dire
Il paraît, Alexandre, que vous aimez beaucoup chanter avec Laurent à tue-tête, notamment sur ce titre. C'est vrai?
Ça va pas le déranger.
On est fan de Joe Dassin.
C'est vrai?
Oui.
J'ai lu ça, vous chantez ce titre de Joe Dassin?
Alors, bien sûr.
Non, mais ce n'est pas que ce titre. Il était une fois nous deux, l'été indien, qu'on va vivre d'ailleurs.
Ouais, les Champs-Élysées, qu'on va chanter encore
les
une fois dimanche, évidemment.
Dimanche,
oui, pour l'arrivée du Tour. Non, les fans, on est fans de Joe Dassin.
Joe, c'est quelque chose quand même.
C'est vrai. Bah, et ça m'amène à votre doc, Michel Sardou, le film de Sally.
Voilà, je suis fan.
Encore
absolu.
Une rediff. Je ne vais pas vous le reprocher, c'est tant mieux pour vous.
C'est vrai.
Rediff, vendredi, 23h15 sur France 3, ça sera quoi?
Sardou, le film de sa vie. C'est vrai qu'il est passé deux fois en prime déjà sur France 3. On a fait un carton. 4 millions de téléspectateurs, la première diffusion. Et donc France 3 le rediffuse vendredi, 2 heures pour connaître toute la carrière, revivre toute la carrière de Michel Sardou. Voilà.
Vous l'avez vu, Alexandre Pasteur?
Ah oui, bien sûr que je l'ai vu.
Vous allez m'en dire du bien?
Évidemment, oui, que du bien.
Ah, je suis désolé.
Du bien et je vais même le revoir avec plaisir vendredi.
Je suis vraiment désolé et je me le dis à moi-même, quelle question con. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ouais, mais ça va pas
merci
changer
Alexandre
le monde,
hein, Pasteur. Merci Laurent Luyat. Je m'appelle
beaucoup.
Le Tour. Tous les après-midi sur France 2, sur France 3, vous prenez l'antenne à aujourd'hui.
11h55. France
super.
2.
Merci beaucoup. Culture Média, ça continue évidemment. Il y aura le rappel des titres de 10h, puis Eva Rock pour le zapping du lendemain et Bertrand Chameroy pour son écran de veille consacré, mais ça va vous faire plaisir, au Tour de France. Véronique Jeuneste, enfin, mais pas pour Julie Lescaut, mais pour une nouvelle pièce de théâtre. Ça s'appelle Bêtises familiales, puis dans les indispensables, une sélection des sorties ciné, on est mercredi, et un concours de chefs, ce sont des femmes, d'orchestre, au féminin. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média.